Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Marguerite Caton et Corentin Mansois, mais aussi Mélanie Chalandon, Maïder Gérard, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Élise Leu. Dernier temps de notre série que nous consacrons au Rwanda cette semaine. Lundi, nous évoquions la question de la mémoire du génocide. Mardi, le modèle politique. Hier, l'économie rwandaise. Aujourd'hui, c'est autour de la géopolitique. La diplomatie, selon Kagame, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Inevitably, there is better, much better.
Inévitablement, il y a une bien meilleure compréhension entre le Rwanda et la France. Et le président Macron sait que les choses ne peuvent pas rester à l'identique pendant des décennies. Les choses changent, c'est une nécessité. Il y a de nouveaux défis, de nouvelles opportunités.
Le Rwanda se doit de contribuer à matérialiser les attentes des Congolais ou d'autres Africains, dont les Rwandais. Et le Rwanda joue un rôle en tant que président de l'Union africaine.
Les réformes institutionnelles et financières de notre Union ont déjà porté sur la capacité à protéger les intérêts de l'Afrique et notre dignité. L'approche « business as usual » ne peut continuer. En effet, nous avons vu des changements significatifs et ces changements se concrétisent.
Extrait de discours de Paul Kagame qui illustre un peu la diplomatie rwandaise aujourd'hui. L'invitation de 23 chefs d'État africains aux 25e commémoration du génocide Tutsi au Rwanda du 7 avril à Kigali montre l'importance diplomatique de l'événement pour le continent. Pourtant, certaines absences seront remarquées, comme celle de Pierre Nkurunziza, le président burundais qui n'a pas été invité et dont les liens avec Paul Kagame se sont beaucoup dégradés dernièrement. Une situation qui illustre les difficultés que peut rencontrer le Rwanda dans son voisinage. Autre absence notable, celle d'Emmanuel Macron qui montre combien le chemin est encore long pour normaliser les relations avec la France, dont la responsabilité dans le génocide continue de faire débat. 25 ans après le génocide, quel bilan peut-on faire de la politique étrangère du Rwanda? Quelle relation avec le voisinage proche, au niveau du continent, mais aussi avec des pays plus lointains, comme la Russie, la Chine ou encore Israël? Pour évoquer toutes ces questions, on a invité ce matin André Guichaoua. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin, André Guichaoua. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris 1, auteur notamment d'un ouvrage intitulé Rwanda, de la guerre au génocide, les politiques criminelles au Rwanda 1990-1994, qui était paru à la découverte. On va commencer peut-être avec les relations avec la France, André Guichaoua. Les commémorations pour le 25e anniversaire du génocide commencent à la fin de la semaine. Le Rwanda avait invité le président français pour les commémorations. Il sera finalement représenté par le député Hervé Berville, qui est orphelin d'origine rwandaise, qui avait été adopté par une famille française en 1994. On aurait pu penser, André Guichaoua, que l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée aurait pu marquer une nouvelle ère dans les relations entre Paris et Kigali. Que vous inspire cette absence du président français et que nous dit-elle au fond de l'évolution des relations franco-rwandaises et de la difficulté aujourd'hui encore, malgré l'arrivée d'Emmanuel Macron, à les normaliser?
La relation franco-rwandaise a énormément évolué, et de manière positive. Par un certain nombre de gestes qui ont été considérés par les deux parties comme marquants. De là à imaginer qu'on puisse solder par des gestes symboliques de ce type un contentieux long, ce n'était pas raisonnable, je pense. D'autant plus que la stratégie, je pense, des deux personnages va bien au-delà de la relation bilatérale. Elle concerne, pour d'un côté en France, une politique africaine qui est actuellement redessinée, recentrée, refondue d'une manière profonde. Et d'autre part, en ce qui concerne le Rwanda, la France est considérée comme symboliquement une puissance majeure, pas forcément déterminante, mais en tout cas, là aussi, symboliquement majeure, du fait des antécédents, du fait du rôle traditionnel de la France comme gendarme de cette zone de 1975 à bien au-delà.
Quand vous dites pas forcément déterminante, est-ce à comprendre qu'au fond, la normalisation et le rapprochement avec Paris n'est pas une priorité pour Paul Kagame ?
C'est une priorité en ce sens que, effectivement, la France reste très présente dans le discours, la conférence de presse qui avait eu lieu à Paris l'an dernier.
Oui, parce que Paul Kagame est venu, souvenons-nous, à Paris l'année dernière, en mai dernier.
Il y avait très clairement, elle avait été assez tendue du point de vue des propos. Le président Kagame avait dit que la France était très impliquée au Sahel, et le président français a insisté à la fin pour dire, et pas qu'au Sahel, en Afrique centrale, donc c'était une politique continentale. Bon, de ce point de vue-là, effectivement, il n'était pas possible de résoudre sur des problèmes franco-rwandais une dimension plus générale. Je reprendrai une chose, simplement symbolique.
Je vous en prie.
Quand le président rwandais est venu, trois jours après, le président Kagame recevait le président angolais. Hasard du calendrier, peut-être, mais symbole. L'Angola a été, pendant en particulier, une des phases les plus importantes de la guerre du Congo, l'ennemi numéro un, celui qui a renvoyé les Rwandais, pour une part, dans leur zone. Donc, et l'Angola reste certainement un des éléments clés de la zone dans la stabilité de la RDC, en particulier sur tout le cône sud et maritime de l'autre côté. Bon, donc là, je dirais, cette visite, avec cette coïncidence, n'est pas fortuite. De la même façon, on peut penser que... avant les commémorations, la tournée que le président Macron a organisée, et notamment au Kenya, etc., bon, avait quand même bien pour objectif aussi de montrer que la stratégie française n'est pas focalisée sur tel ou tel pays, et qu'il y a des vis-à-vis tout aussi importants, si ce n'est plus importants. Voilà. Donc moi, j'ai l'impression que chacun montre qu'il n'est pas isolé, que sa stratégie ne dépend pas que de cet acteur-là, tout en sachant très bien que l'un et l'autre ne peuvent pas être dissociés tant qu'ils n'auront pas soldé une partie de leur contentieux.
Vous disiez pas raisonnable d'y aller pour ces commémorations. Ça veut dire que peut-être, à l'avenir, Emmanuel Macron s'y rendra. C'est pas exclu. Vous pensez que c'est souhaitable ?
Je pense que c'était faisable. Les conditions commençaient à en être réunies. On pourrait aussi imaginer que les déclarations quelque temps avant, notamment particulièrement agressives vis-à-vis du président Museveni, rendaient peut-être difficile la visite à Kigali.
Président Museveni de l'Ouganda.
De l'Ouganda, oui.
Pour les auditeurs qui ne sont pas forcément complètement faits.
Donc, les deux pays, bon, il y a eu des déclarations très fortes, voilà. Et je crois que, ça rendait beaucoup plus difficile les choses.
On parlera de l'Ouganda, mais d'abord, venons-en à la RDC, parce que s'il y a cette absence notable d'Emmanuel Macron, il y a en revanche une présence qui, elle, particulièrement notable, c'est celle de Félix Tshisekedi, qui est donc le nouveau président de la RDC. Il s'est même rendu au mémorial, ce qui d'ailleurs a été moyennement apprécié du côté de la RDC. Il faut se rappeler que le génocide, il a produit quand même une forte déstabilisation du côté de la RDC, avec des massacres qui ont conduit des centaines de milliers de réfugiés Hutus, et notamment des génocidaires, à s'installer dans l'est du pays, et entraînant une série d'événements qui ont débouché sur des conflits 96, 97, 98, 2003. Comment est-ce que vous interprétez, pour le coup, la présence du président congolais, et est-ce que vous diriez que l'arrivée de Félix Tshisekedi, son fils, est de nature justement à engager une normalisation des relations entre les deux pays, qui est évidemment absolument centrale dans la région?
Bon, là, on est vraiment dans le cœur du sujet.
On est dans le cœur, on y est.
Voilà. Bon, alors il faut revenir un petit peu en arrière. Lors de la proclamation des résultats, il y a eu une attitude très 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 qui a énormément surpris, une réaction qui a énormément surpris du président Kagame, toujours encore dans les suites de sa présidence, annonçant que avec d'autres chefs d'État il allait se déplacer à Kinshasa pour faire savoir ce qu'il en pensait. Bon, La décision est apparue au milieu de ses pairs comme incroyable, puisqu'il a toujours été, si j'ose dire, celui qui a cautionné tous les types d'arrangements qui prévalent pour porter au pouvoir X ou Y sur l'ensemble du continent. Bon, et il a dû faire volte-face. Cette volte-face s'est faite en deux temps. Il y a eu une première réunion et il y en a eu une seconde. À mon sens, la logique, elle est relativement simple. Le président Kagame, ne peut pas être en conflit avec la totalité des pays qui l'entourent. Bon, le Burundi,
on va y venir.
Le conflit est soldé. Avec le
l'Ouganda, c'est pas terrible non plus.
C'était aussi. Bon, sur le Congo, il pouvait pas partir, alors même que le Conseil de sécurité et d'autres pays, dont l'Europe, s'alignaient sur. Bon, et là, il a fait quelque chose d'assez surprenant. Bon, ça s'est fait il y a quelques jours, la visite de Tshisekedi à Kigali. Et dans leur communiqué, ils ont dit que le but était de régler des questions sécuritaires et économiques. Ouais. Alors, pour le dire crûment, je pense que cela signifie que désormais, dans la politique de mise en valeur concertée et évolutive et conflictuelle des minerais du pays de l'autre côté, le président Tshisekedi fait désormais partie des bénéficiaires de la redistribution. Il a ses jetons de présence et il existe désormais comme un des interlocuteurs du jeu qui prévaut dans la mise en valeur de l'Est du Congo.
Mais sur les questions sécuritaires en particulier, parce que pendant très longtemps, le régime rwandais reprochait au régime congolais de Joseph Kabila de laisser les groupes armés, notamment les rebelles Hutus des FDLR, des Forces démocratiques de libération du Rwanda, de circuler totalement librement et de favoriser la déstabilisation du Rwanda. Est-ce que aujourd'hui, avec Tshisekedi, ça peut changer? Est-ce qu'il a les moyens de ramener un peu de calme dans cette zone-là?
Oui, mais les FDLR n'étaient pas, ne demeuraient pas en soi un danger. Ce qui a changé en particulier au cours des dernières années, pour aller vite, au cours de 2014-2015, ça a été la co-gestion avec tous ceux qui acceptaient d'y participer, et les FDLR ont fait leur job, si j'ose dire, dans les zones qu'ils contrôlaient. Le transit des minerais se faisait de la même façon qu'avec le reste, et l'avancée de la situation dans la RDC au cours de ces 2-3 dernières années reposait sur le fait qu'on ne regardait plus véritablement d'où venaient les choses, on faisait que ça tourne. Ça n'interdisait pas à des groupes de rentrer dans le jeu et de le perturber, etc. Mais ça fait partie de la guerre prolongée ou de la déstabilisation structurelle. Bon, maintenant, en ce qui concerne Tshisekedi, je pense que le problème des FDLR, les autorités avaient accepté de le résoudre. Formellement, il resterait encore quelques 200 000 Rwandais, rwandophones ou Rwandais, bon, c'est un peu plus compliqué, sur l'est du Congo. Le HCR a accepté un système de rapatriement forcé, bon, même s'ils disent qu'ils étaient en transit et qu'ils ont le droit de le faire. Bon, actuellement, le Rwanda et la RDC ont effectivement intérêt à résoudre ce problème qui, de toute façon, doit l'être, d'une manière ou d'une autre.
Donc le contexte, finalement, pousse vers une forme de normalisation des deux pays. Regardons du coup vers la frontière sud, parce que là, on est donc à l'ouest. Hein. Il faut se rendre compte que le Rwanda, c'est vraiment ce tout petit pays qui est enclavé à l'ouest duquel se trouve la RDC, au sud le Burundi, au nord l'Ouganda. Parlons justement du Burundi, parce que voilà un pays avec lequel les relations sont très difficiles. Le président, je le disais tout à l'heure dans mon introduction, Pierre Nkurunziza, n'a même pas été invité aux commémorations. Kagame accuse Bujumbura d'être une base arrière pour l'opposition armée. De son côté, Nkurunziza considère que le Rwanda appuie également des groupes armés qui cherchent à le renverser. On sent que la situation est extrêmement compliquée et que la tension sécuritaire a rarement été aussi vive. Concrètement, est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans cette partie-là, un risque d'explosion de violence? Est-ce que, je vous pose la question assez crûment, mais est-ce qu'une guerre est possible entre les deux pays? Parce que vraiment, les relations sont très difficiles et la question sécuritaire est vraiment explosive, là.
Bon,
Et comment Kagame peut l'éviter?
Alors, je vais répondre d'une manière tout aussi crue. Au moment de l'élection du président Kagame à la tête de l'Union africaine, le raisonnement que beaucoup de ses pairs mettaient en avant était de dire que il s'agite beaucoup, il a beaucoup d'énergie, il a des forces, et le seul moyen, entre guillemets, de le contenir ou de contenir cette énergie, et comme l'un, je m'appellerai toujours un diplomate, disait à l'époque, nous lui apprendrons la sagesse. C'est-à-dire que l'Union africaine, c'est une institution qui fondamentalement ne se réforme pas, qui fonctionne selon des règles lourdes, et que le président Kagame les a parfaitement maîtrisées et s'est aperçu que sur beaucoup de dossiers, c'est l'échec. Bon, mais ce que la même personne avait dit, on pense que pendant 3 ans, on n'aura pas d'incursion armée chez un des voisins et on n'aura pas non plus d'assassinat majeur d'opposants dans les pays de la région. De ce point de vue, on peut dire que la stratégie a prévalu, ne serait-ce que parce que, en tant que président de l'Union africaine, il se devait de maintenir un certain nombre de normes, droits de l'homme entre guillemets, ou d'impossibilité d'incursion guerrière. Vraisemblablement, on aurait pu avoir un dénouement militaire vis-à-vis du Burundi. Je crois que là, ce n'est pas dire des choses désagréables, humiliantes ou quoi que ce soit. Disons, la disproportion des forces entre les deux pays permettrait peut-être une résistance populaire au Burundi, mais en termes de mobilité, d'occupation, de moyens, ce n'est même pas discutable. Bon, alors maintenant... Le Burundi a fait depuis 2-3 mois s'est lancé dans un rapport de force assez vigoureux avec ceux qui patronnent le processus pour les prochaines élections au Burundi. Oui. En gros, il a réussi à se mettre à dos et la Tanzanie et l'Ouganda, enfin disons les parrains de cette négociation. Et effectivement, on peut imaginer qu'aujourd'hui, l'isolement du Burundi est grand et pourrait déboucher sur...
J'entends André Guichard, vous parlez d'isolement, on pourrait faire au fond la même remarque à propos du Rwanda, parce qu'effectivement, bon, la RDC, vous dites, ça peut s'améliorer, mais enfin, la situation est quand même pas formidable. Du côté du Burundi, c'est pas formidable non plus. Du côté de l'Ouganda, c'est pas formidable non plus, alors que pendant très longtemps, les relations ont été bonnes. Faut rappeler que dans les années 80, Paul Kagame avait aidé Museveni, justement, à prendre le pouvoir dans l'Ouganda. Plus tard, lors de l'offensive du FPR, du Front Patriotique Rwandais, du début des années 90, visant à faire tomber le régime de Kigali, le régime ougandais avait prêté main forte justement à ce FPR, et aujourd'hui on voit que les relations sont extrêmement tendues. Kagame accuse l'Ouganda d'accueillir avec une certaine bienveillance des acteurs qui cherchent à le déstabiliser. C'est ce qu'il a dit très récemment dans une interview à Jeune Afrique. Donc pendant très longtemps, les relations étaient très bonnes avec l'Ouganda, sauf qu'aujourd'hui, elles se sont considérablement dégradées. Donc le Rwanda aussi s'isole d'une certaine manière, et au fond, alors je ne sais pas si Paul Kagame en est la seule raison, mais en tout cas, il n'a pas su éviter cet isolement.
La réponse, à mon avis, on peut la trouver dans le discours d'il y a très peu de temps, une douzaine de jours, de
Saïd
Djinit, l'envoyé spécial pour la région, devant le Conseil de sécurité. Bon, il a dit plusieurs choses. Il a dit que dans la région, les relations relèvent de rapports de famille. Bon, c'est vrai. Si vous prenez les durées moyennes de pouvoir, vous vous apercevrez que, bon, entre les gérontes au sens propre du terme, hein, qui ont dépassé 60 ans et 30 ans de pouvoir, etc., bon, et les nouveaux qui n'ont pas encore les mêmes années, le même âge, mais qui...
Bon, qui atteignent... est à 62, je crois, quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça. Mmh. Bon, mais qui vont atteindre très vite le même plafond en termes de présidence de leur pays. Bon, vous voyez bien une chose. Ils ne peuvent imaginer l'entrée d'outsiders dans le groupe. Cela fait maintenant, pour certains, plus de 30 ans qui se supportent, ou 25, pour etc. Et comme le dit Saïd Djinnit, on ne peut rentrer dans ces affaires de famille en sachant qu'ils sont obligés de s'entendre. Et obligés de s'entendre, la raison, elle est très simple. Le nouveau modèle d'intégration régionale qui a été construit dans la région ne peut se développer autrement. Kinshasa est excentré par rapport à ses richesses. Le Rwanda est dans la position de hub qu'il a réussi à valoriser, à structurer d'une manière particulièrement efficiente. Donc il est devenu la plateforme, entre guillemets, le réceptacle de la mise en valeur de l'autre côté.
Il a une position géographique, hein, voilà. On dit toujours enclavée, mais centrale. Donc voilà. Il peut en tirer bénéfice,
bien sûr.
C'est
lui qui tient, voilà. Mais en même temps, sans le corridor nord, c'est-à-dire sans l'Ouganda pour le transit, il est bloqué. Donc, je dirais la différence, c'est que Museveni est un ancien.
Président voilà. Ougandais.
Le président ougandais, et c'est une diplomatie ancienne, faite de finesse, de rouerie, de calcul, etc. Ce que les autres font aussi. Mais disons que il a toujours cette stratégie, entre guillemets, de celui qui n'est pas pressé, ce qui, le différencie totalement. Donc, ce que vous pouvez vous dire, et c'est ce que dit Saïd Djinnit, c'est que ils sont de toute façon obligés de s'entendre sur le dos des populations. Mais il a rajouté cette chose, et pour moi c'est l'essentiel. Il a dit désormais les populations elles-mêmes sont fatiguées. Et ça, je crois que c'est un critère très fort. Dans l'est du Congo, on va pas rentrer dans les détails du fait qu'ils n'ont pas pu voter, etc. La situation est insupportable, est absolument insupportable. Cette guerre, elle continue en permanence.
Les règles du jeu,
c'est intolérable. Ils viennent de reconduire la mission des Nations Unies avec 17 000 hommes sur le même format. Mais c'est inouï. Enfin, c'est impensable. C'est la 20e année qu'ils reconduisent cette mission. Donc là, je pense que maintenant, au niveau des populations, je crois qu'il y a des choses qui ne pourront pas durer.
On le voit, André Guichaoua, il y a des difficultés extrêmement vives dans les rapports bilatéraux. Vous parliez d'intégration régionale. Est-ce que justement ça peut être la solution? Il y a évidemment dans cette sous-région l'existence d'une institution qui s'appelle la Communauté d'Afrique de l'Est, où il y a 6 pays, le Rwanda, le Burundi, le Soudan du Sud, l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. Il y a un sommet annuel qui d'ailleurs, pour ce qui est du dernier, a été reporté à plusieurs reprises. Il a finalement eu lieu. C'est précisément Paul Kagame qui en a pris la tête pour un an. Est-ce que cette entité régionale est en capacité d'apaiser un petit peu les tensions et de régler un certain nombre de problèmes sécuritaires, mais pas seulement, sachant que dans les objectifs de cette communauté, il y a aussi des enjeux économiques, monétaires, etc., etc. Est-ce que cette intégration régionale peut aider? Et que peut Paul Kagame, est-ce qu'il peut l'utiliser comme un outil précisément, puisqu'il en a la présidence aujourd'hui?
Personnellement, et pour ce que j'en perçois, je pense qu'au niveau de l'East African Community, les tensions sont telles, les positionnements des uns et des autres tellement différents. Je ne pense pas que l'East African Community puisse véritablement
faire quoi que ce
soit. Peser. Et alors, elle pèse sur la crise burundaise, assurément, mais certainement pas sur les enjeux dans lesquels le Burundi n'intervient pas.
Elle pèse et en même temps, elle est dans l'incapacité d'organiser une médiation autour de cette crise burundaise.
Donc, ça, je crois que...
Je rappelle, on l'a pas dit pour les auditeurs, mais que la crise au Burundi, elle est particulièrement vive depuis 2015 et la réélection contestée de Pierre Nkurunziza. On l'avait
différent.
Pas dit. Voilà.
C'est très différent. Et elle est pas liée, entre guillemets, aux ressources minérales. Sauf pour l'or.
C'est une vraie crise politique.
Bon, donc le Burundi sort du jeu, et à mon avis, l'East African Community ne pèse pas au-delà. Bon, après, on chevauche. Il y a la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, il y a la SADC avec les pays du Sud, et puis
l'Union africaine.
Il y a l'Union africaine, mais il y a aussi la CEPGL. la communauté économique des pays des Grands Lacs. Bon, ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de structures qui sont censées faire le job.
Et elles le font ?
Alors, bon, la CEPGL reste un cadre, mais c'est un cadre qui est trop étroit, hein, c'est-à-dire Rwanda, Burundi, RDC. La CIRGL, elle est trop vaste. Hein, parce que bon, là, c'est effectivement tous les pays de l'Est à
l'Ouest.
Donc
si elle est trop vaste, l'Union africaine aussi est trop vaste. Non, mais je pose la question parce que il se trouve que Paul Kagame a pris la présidence l'année dernière de l'Union africaine et on peut regarder quel bilan on peut tirer de cette présidence de l'Union africaine.
Bah écoutez, sur le bilan, je pense que, en tout cas, en ce qui concerne la situation, disons, explosive, je crois, hein, en tout cas extrêmement tendue, qui prévaut dans leur sous-région, l'Union africaine n'a pas bougé. Sauf qu'il n'y a pas eu de gestes irréversibles ou de rapports. On a géré. Et chacun a géré.
On a maintenu le statu quo.
On a maintenu le statu quo au détriment de ceux qui sont exploités, pillés, tués, violés. Enfin bon, voilà.
Et au-delà de la situation dans la sous-région, qu'est-ce que Paul Kagame a fait pour l'Union africaine lors de cette année de présidence ?
Bah écoutez,
quel bilan est-ce qu'on peut faire de Kagame ?
Bon, il faut dissocier ce qui relève du rayonnement international et des réalisations concrètes. Bon, en ce qui concerne le rayonnement international, ce qui était l'objectif de ses pairs, bon, beaucoup le disent un peu de manière très très directe, il est le seul qui puisse parler à l'étranger d'une manière forte. Il ne craint personne. Bon, ok. De ce point de vue-là, il est clair que la diplomatie rwandaise n'est pas forcément plus respectueuse de certains usages diplomatiques, y compris par rapport à de très grands pays. Et voilà.
Non, donc ça, c'est important. Donc, ça veut dire qu'à l'échelle du continent, on considère que le charismatique Paul Kagame est l'homme de la situation pour prendre le leadership du continent. Il a été désigné à la tête de l'Union africaine. C'est un peu comme ça qu'on peut interpréter les choses.
Oui, mais en même temps, comment dire. Je me rappelle toujours le premier sommet quand le président Kagame avait annoncé qu'il réunissait les chefs d'État, c'est au sommet intermédiaire, pour définir son programme. Il s'est retrouvé avec moins d'une dizaine de chefs d'État. Et c'était à cette occasion qu'on m'avait dit, on lui apprend la sagesse. Voilà. Bon, donc...
Donc c'est un soutien par défaut, c'est ça que je dois comprendre ?
Non. À la fois, ils étaient satisfaits d'avoir quelqu'un, de quelqu'un qui va agiter, qui va supprimer, qui va, etc. Mais ils ne se laisseront pas violenter. Je prends l'exemple typique des cotisations. Hein, avec donc le principe du président Kagame, c'était que l'Union africaine doit désormais être indépendante financièrement, hein, notamment vis-à-vis de l'étranger. Bon, donc les pays doivent cotiser et en cas d'absence de cotisation, il serait suspendu. Eh bien là, à l'heure actuelle, ça ne s'est pas fait. Certes, pour certains pays, ils payent. Mais par exemple, tous les pays d'Afrique australe ont décidé de ne pas appliquer. Bon, et c'était sa réforme phare. Donc, comment dire, où ça blesse, ça n'a pas bougé. Sur l'histoire de Fayulu Tshisekedi, volte-face. Il n'a pas pu faire autrement. Bon, donc maintenant, j'en reviens un peu à l'essentiel. Il est par contre acting, enfin, dans la région. Bon, et dans la région, eh ben, qu'on le veuille ou non, c'est quand même le petit noyau qui actuellement décidera des issues viables, tolérables par les uns et par les autres, avec... Et c'est là que peut-être, bon, il faudrait faire quelques liens, les pays qui pèsent sur cette région. Parce qu'après, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Kenya, il y a...
Alors ça tombe bien, voilà. Vous me tendez la perche que j'attendais, André Guichaoua, parce que je voulais qu'on parle de l'Afrique du Sud. On va ensuite élargir, mais restons sur le continent, mais on va élargir un tout petit peu le cercle pour parler de l'Afrique du Sud. 2013, l'une des principales figures de l'opposition rwandaise, Patrick Karegeya, est assassiné en Afrique du Sud.
Oui.
Où il vit en exil, il est tué dans sa chambre d'hôtel, alors qu'il s'apprête à participer à un meeting du Congrès national du Rwanda, qui est une partie d'opposition à Kagame, il est à Johannesburg. Et cette affaire va provoquer de très vives tensions entre Kigali et Pretoria, à tel point que les relations diplomatiques sont rompues. Est-ce que, alors, vous allez nous dire un petit peu l'état des lieux de la situation et des relations entre les deux pays, mais il y a un fait du côté de l'Afrique du Sud qui est marquant, c'est l'arrivée de Cyril Ramaphosa en lieu et place de l'ancien président Jacob Zuma, qui a été forcé à la démission pour des affaires de corruption. Est-ce que cette arrivée a permis d'apaiser un tout petit peu les tensions et est-ce qu'on peut penser que ça peut permettre d'engager une forme de normalisation entre les deux pays ? André Guichaoua.
Pour l'instant, c'est vraisemblablement trop tôt. Les cartes ne sont pas encore clairement distribuées au niveau de la RDC. Or, le pied-à-terre, le véritable pied-à-terre sud-africain dans la relation, c'est Kinshasa. Hein, ne serait-ce, bon, les histoires de barrages, enfin bon, et puis beaucoup d'autres intérêts beaucoup plus importants. Mmh. Bon, donc, pour l'instant... Aussi bien en Afrique du Sud, il y a eu un nouveau président, il y a eu une nouvelle donne. À Kinshasa, l'incertitude... Enfin, disons, les rapports sont en train de se stabiliser avec le positionnement des uns et des autres, mais il faut que ça s'inscrive dans la durée, et surtout vis-à-vis des acteurs de la région cruciale, c'est-à-dire à l'est du Congo. Donc, pour l'instant, je ne pense pas qu'on puisse véritablement dire qu'il y aura des éléments majeurs qui vont clarifier.
Parce que l'Afrique du Sud n'y a pas forcément intérêt. J'ai posé la question autrement. Est-ce qu'on peut dire que finalement l'Afrique du Sud se compte... ne serait pas mécontente que le régime rwandais change. Bon, je vais vous poser encore la question autrement, parce que il se trouve que en Afrique du Sud, visiblement, on abrite un certain nombre d'opposants rwandais, y compris des individus soupçonnés d'avoir une responsabilité dans les massacres Hutu réfugiés en RDC. Je pense à l'ancien chef d'état-major Nyamwaza, qui est aujourd'hui considéré comme un traître par Paul Kagame. Est-ce qu'on peut penser que effectivement aujourd'hui, le gouvernement sud-africain fait preuve d'une certaine bienveillance à l'égard des opposants de Kagame, y compris d'ailleurs ceux qui auraient pu se rendre coupables de crimes de guerre, et que finalement, tout cela est fait aussi pour déstabiliser le Rwanda et peut-être obtenir un changement de régime?
Disons que... L'Ouganda, comme l'Afrique du Sud, comme d'autres pays, ont déjà été confrontés à ce débat depuis 2001. Bon, des alliances avaient été nouées avec d'autres candidats que le président actuellement en place. Et c'est ce qui explique vraisemblablement la période redoutable où les opposants de l'intérieur, Hutu comme Tutsi, ont été éliminés dans des proportions impressionnantes. Mmh. Bon, bref, il a pris le pouvoir, il l'a pris totalement, et il a montré que ceux qui bougeaient, y compris jusqu'en 2013, il les assassinait. Et il l'avait revendiqué en disant que deux jours après que c'était pas lui, mais bon, c'est la même chose que pour cette Senda Chonga, l'ex-ministre de l'Intérieur qui a été assassiné au Kenya et dont il a reconnu qu'il l'avait fait en connaissance de cause parce qu'il faisait alliance avec Museveni. Bon, ce que cela signifie, c'est que dans la région, chacun sait que la détermination de ses pairs est tout aussi forte que la sienne et que tous les moyens seront utilisés. Donc, voilà. Si ce n'est que... comment dire, la question fondamentale, à mon sens, elle est actuellement que un petit pays, 90 fois moins que la RDC, se trouve dans une position de hub incontournable, indispensable, avec des pouvoirs positifs comme de nuisance, qui dépassent l'entendement et les rapports de force habituels, qui sont militaires. Hein, je dis bien. Bon, alors maintenant, le vrai risque, à mon avis... c'est, je pense, ce qui est en train de se passer. Il y a une quinzaine de jours ou trois semaines, ont été confirmés les accords militaires sur les systèmes de défense aérien de la part du Rwanda. C'est que le Rwanda, outre le fait qu'il a des troupes en nombre équivalent aux grands pays de la région, hein, comme le Kenya, comme la Tanzanie, etc., comme l'Angola, etc., est en train de s'équiper avec du matériel. Et il a dit immédiatement, le président, que désormais, dans la région, il ne craignait personne.
Puisque c'est un hub, et puisqu'il est aussi incontournable que cela, justement, combien il est incontournable pour un certain nombre de pays extérieurs au continent. On a vu ces dernières années arriver un certain nombre de nouveaux acteurs en Afrique. On pense évidemment à la Chine, avec cette nouvelle base militaire à Djibouti, avec cette présence accrue à travers les forces onusiennes. On a 2500 casques bleus chinois qui sont déployés dans la région. On a même la présence de troupes combattantes. On a aussi la Russie, qu'on voit essayer de s'imposer ça et là. Je pense évidemment à la Centrafrique, où elle est de plus en plus présente. Quelles sont les relations qu'entretient Kigali avec ces nouveaux acteurs, avec Moscou, avec Pékin, puisque c'est le hub incontournable dont vous parliez? Alors, comment est-ce qu'on pense la coopération avec ce pays?
Bon, ce qui est important, je pense, c'est, je crois, que quand on dit, et quand Saïd Djinnit dit, c'est la famille qui décide. C'est-à-dire que la diplomatie relève bien, désormais, entre guillemets, des Africains. Hein? Voilà. Et personne ne rentre véritablement dans l'intimité et les...
De la famille.
Et l'hypercomplexité de ces rapports de famille.
Il n'empêche qu'on peut chercher à attirer des investissements, à lier des liens, des coopérations dans le domaine sécuritaire, économique, etc.
Comment peser? Bon, parmi les acteurs, il y a les acteurs, disons, la finance internationale.
Ouais.
Bon, elle a pesé, par exemple, 2013-2014, quand il fallait rétablir le Rwanda à ses dimensions. Il y a eu des blocages de financement américains, britanniques, etc. Des modalités pour compenser les trous dans le budget avaient dû être prévues en demandant à la population d'y participer, etc. Bon. Et en même temps, et ça c'était très très important à l'époque, la Chine, en un an, deux ans, a baissé ses investissements de l'ordre de 40 à 50%. Bon. Or, quand
au Rwanda.
Or, quand la Chine prend une telle décision, elle est simple, puisque c'est des structures d'État qui négocient, mais en même temps, c'est eux qui font la stabilité vis-à-vis d'un régime de l'autre côté. Bon, mais on avait constaté immédiatement au niveau des rentrées et des investissements que c'est l'Inde, mais l'Inde ce sont des privés, qui avaient compensé ce que la Chine avait retiré entre guillemets. Mais la Chine, c'était en attente. Bon, la situation s'est rétablie et depuis, chacun réinvestit allègrement sur le Rwanda.
Et je voudrais comprendre la nature exacte des relations entre Kigali et Pékin. Du côté de Pékin, on propose de l'argent. Il y a des prêts. En échange de quoi?
Alors, tout d'abord,
on a proposé plusieurs
millions. Tout d'abord,
on a prêté plusieurs millions.
De la source. Ouais. L'Est, l'extrême Est, ou l'Est de proximité, pays arabes, etc., font partie des principales destinations des exportations qui viennent, qui arrivent à Mombasa et qui transitent par le Rwanda. Donc ça, c'est le premier élément. Et la demande de minerais de la Chine n'est pas liée aux politiques. Au Burundi, ils ont signé des contrats sur les terres rares qu'ils exportent dans des conditions que personne ne maîtrise. Bon, mais le régime est aux abois, il a besoin de rentrer, on lui paye sa fonction publique et voilà, et on fait tourner la boutique. Bon, donc ça, c'est une relation, c'est la base, c'est l'arrière-plan. Le deuxième élément, la RDC est totalement piégée par la dette vis-à-vis de la Chine. Bon, dans l'état de déliquescence qui a prévalu, la Chine a toujours prêté à la place des organismes internationaux en échange de remboursements différés, même sans date, en minerais. Voilà. Bon, donc ça, c'est quand même un élément très fort de cadrage de la relation. Maintenant, la visée chinoise, je pense, elle est relativement claire. un envoyé spécial chinois qui, je crois, était ambassadeur à Paris, j'en suis pas sûr. Enfin, en tout cas, a été nommé pour la région des Grands Lacs. C'est la première fois dans l'histoire des Nations Unies qu'un tel poste revient à un représentant chinois. Bon, mais là derrière, ce qui se joue, c'est la direction du maintien de la paix au sein des Nations Unies. Elle est traditionnellement, depuis je ne sais pas combien, au moins 20 ans, je crois, dans les mains de représentants français.
Et les Chinois voudraient en prendre la tête ?
Oui, puisque ils sont le premier ou le deuxième contributeur de cette structure.
Paul Kagame y est favorable ? Ça lui irait ?
Alors...
Ah, on parle du Rwanda aujourd'hui, on parle de voilà. Paul Kagame alors.
Bon, alors maintenant...
La question s'impose.
Maintenant, ce que cela
signifie... Il y serait favorable ou pas ?
Comment ?
Il y serait favorable, Paul Kagame ?
Je ne pense pas de toute façon qu'il pèse. Sauf si par le biais de son rôle au sein du Commonwealth, des voix, il pouvait peser sur ces voix-là. Mais ça, je n'en suis pas sûr. Je ne pense pas qu'il puisse véritablement peser sur une décision aussi importante au niveau du Conseil de sécurité qui intéresse tellement de monde. Hein. Bon, donc ce que je veux dire par là, c'est que le Rwanda aujourd'hui a les moyens. Sur le plan de l'armement avec la Russie, sur le plan de la dette, du commerce extérieur, du pillage du Congo, des bonus et des équilibres de la région, c'est la Chine. Mais c'est aussi l'Inde. L'Inde est incroyablement présente sur toute cette zone de l'Afrique du Sud jusqu'au Kenya et au-delà. Bon, une anecdote, juste parce que c'est très important, il faut l'avoir en tête, même sur le plan intellectuel. Quand aujourd'hui des articles sont publiés dans une structure comme The Conversation, si vous les mettez à Paris, la diffusion, elle est bonne, même en anglais, mais bon, dans les pays du précaré. Si c'est diffusé par Nairobi et par Johannesburg, vous multipliez par 3, par 4 la diffusion. Et surtout, c'est arrivé là récemment sur un article, les premiers lecteurs, les plus importants lecteurs, étaient en Inde, sur un pays sur la région des Grands Lacs. Bon, ce que cela veut dire, c'est que nous, on ne s'en rend peut-être pas compte, cette région est un élément de l'actualité internationale du point de vue d'enjeux miniers, géostratégiques et des forces de demain. Mais il ne faut pas oublier que la RDC, c'est quand même, je crois que c'est 90 millions d'habitants aujourd'hui, même plus. Bon, c'est un des plus grands pays et des plus riches du continent.
Oui, donc c'est normal qu'il soit au centre de... On est avec vous, André Kishawa, dans cette série consacrée au Rwanda. Aujourd'hui, la diplomatie selon Paul Kagame. Et on va s'intéresser dans un instant aux relations entre le Rwanda et Israël.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
La coopération entre nos deux pays a porté ses fruits dans plusieurs domaines, que ce soit les technologies, l'agriculture, l'énergie, aussi bien que dans celui de la sécurité. Nous apprécions ce qu'Israël a à nous offrir dans ces domaines variés et nous sommes heureux de travailler avec vous.
Je voudrais dire que vous êtes le pont indispensable grâce auquel nous avançons pour réaliser notre retour en Afrique. Pas à pas, aidés de vos conseils précieux et avisés. Ensemble, nous avons planifié ce chemin, débutant dans votre beau pays qui a d'ailleurs réalisé des progrès impressionnants sous votre mandat. Je dois dire que tout ceci a commencé en conversant avec le président Paul Kagame. Donc je te remercie, Paul, d'aider Israël en Afrique, d'aider Israël en général. Merci, Monsieur le Président.
Voilà, extrait du discours de Paul Kagame lors de sa visite en Israël en juillet 2017, et puis aussi extrait de la déclaration de Benjamin Netanyahou lors de sa visite également. On voit qu'il y a là peut-être un partenariat stratégique qui est en train de se monter entre les deux pays, et on le voit encore plus ces derniers jours, puisque le 22 février dernier, Israël a même ouvert une ambassade à Kigali. Comment comprendre tout ça ? Est-ce qu'il faut voir le signe effectivement d'un partenariat stratégique voué à se renforcer ? Bonjour Jérémy Révillon.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien et chercheur associé au laboratoire Les Afriques dans le monde de Sciences Po Bordeaux. Comment comprendre là ce partenariat stratégique qui est en train de se monter? À quand est-ce qu'il remonte et d'où vient-il? Qu'est-ce qu'on vise, Jérémy Révillon?
Il y a plusieurs aspects hein, dans cette nouvelle alliance rwando-israélienne. La première chose, c'est le passé. Le passé, on assiste beaucoup du côté israélien comme du côté rwandais sur ce partage d'un passé tragique avec des pays en fait qui ont connu le génocide, bon, de façon très différente certes, mais on partage le passé tragique. C'était la citation de Paul Kagame lors de sa première visite en Israël, donc c'était en 2013. Mmh. Et depuis 2013, la relation s'est fortement développée. On a vu finalement une alliance naître tout doucement. Les objectifs, ils sont assez nombreux, ils sont variés des deux côtés. Hein. Côté rwandais, on recherche vraiment de diversifier les alliances. Comme l'a rappelé André Guichawa tout à l'heure, le Rwanda a été sanctionné un petit peu en 2013-2014, et c'est à cette époque-là où Paul Kagame s'est rapproché d'Israël. Et côté israélien, on recherche finalement à rejoindre un petit peu l'Afrique qu'on avait un petit peu laissé tomber pendant plusieurs décennies. Et l'objectif principal de Benjamin Netanyahu, qui était déjà en poste en 2013, c'était d'obtenir notamment des votes de l'Union africaine, et donc de nouer des nouvelles alliances à une époque encore où Israël était déjà un petit peu isolé sur la scène internationale.
D'accord, donc il y a la recherche d'un soutien mutuel dans l'arène diplomatique, si je puis dire. Alors il y a ça, et puis il y a aussi autre chose. Début janvier 2018, Israël passe un accord sur la relocalisation de migrants vers le Rwanda et l'Ouganda, en l'occurrence. Alors tout cela, au début, n'est pas très très officiel. Le Rwanda et l'Ouganda ont très longtemps démenti tout ça, et puis finalement, le Premier ministre israélien a été obligé de l'assumer, parce qu'il y a des ONG qui ont dénoncé cet accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la nature d'abord précisément de cet accord? Il a été un peu modifié ensuite, on va y revenir, mais comment comprendre cet accord? D'où vient-il?
Alors, c'était en 2014 où le Jerusalem Post, donc un gros journal israélien, a un peu lancé un pavé dans la mare en expliquant justement que des migrants illégaux africains seraient expulsés d'Israël, avec comme destination donc le Rwanda et l'Ouganda. Bon, les deux pays, vous l'avez dit, ont dénié très vite ces accusations d'un accord financier. Donc là, on parle de plusieurs millions de dollars en fait qui auraient été versés au Rwanda et à l'Ouganda. Et il a fallu attendre le printemps 2015 pour que notamment Paul Kagame confirme l'accord de relocalisation. Donc ça serait essentiellement en fait des Érythréens et des Soudanais. Paul Kagame a expliqué qu'en fait son pays avait été approché par les autorités israéliennes. Donc on est sur une démarche israélienne à la base. Il faut savoir qu'il y a environ 50 000 migrants africains qui doivent être relocalisés, c'est-à-dire expulsés, hein, en d'autres termes. Les premiers réfugiés, ils sont arrivés en 2014. Alors, rien n'était officiel. Ils étaient payés 3 500 $, en fait, pour quitter volontairement Israël.
Ah, moi, j'ai lu 500 $ hier dans ma documentation, mais peut-être que vous avez raison, peut-être que c'est 3 500. Mais en gros, on leur donne des dollars en poche au Rwanda ou en Ouganda, ou alors, le choix, il est très simple pour eux, c'est soit on vous relocalise avec un petit peu d'argent en poche, soit vous allez en prison pour une période indéfinie. C'était ça, le choix.
Les migrants refusaient forcément de retourner en Érythrée et au Soudan, on leur payait parfois 3 jours d'hôtel au Rwanda, sauf que au départ l'accord était plutôt mal ficelé apparemment, parce qu'ils étaient reçus à Kigali avec seulement un visa touristique de 10 jours, ils n'avaient pas vraiment de documents officiels, ils pouvaient pas travailler, et du coup très vite ils se retrouvaient comme des migrants illégaux, mais c'est pas au Rwanda. Donc on est sur un accord qui est très opaque, qui a suscité les critiques de toutes les organisations de défense des réfugiés, qui a fait grincer beaucoup de dents en Afrique, notamment vis-à-vis du Rwanda et de l'Ouganda.
On comprend facilement l'intérêt pour Israël. Pour le Rwanda, c'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce qu'il a en retour?
Alors pour le Rwanda, en retour, on renforce un petit peu cette alliance qui permet des investissements économiques, notamment d'Israël sur le territoire. Il y a des investisseurs israéliens qui sont venus en 2014 avec le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman. L'idée, c'était vraiment d'obtenir des investissements. Donc, on parle quand même de sommes de plusieurs millions de dollars, voire de dizaines de millions de dollars, ce qui, pour le Rwanda, était une somme importante, notamment à une époque où les investisseurs, notamment anglo-saxons, étaient plus rares.
Mmh. Oui, d'ailleurs qu'on peut peut-être noter le fait qu'il va y avoir très très bientôt, c'est cette année, un vol direct entre Kigali et Tel Aviv par la compagnie rwandaise, peut-être un élément qui va permettre de booster le tourisme rwandais, et donc peut-être demain des Israéliens viendront justement en vacances au Rwanda. On voit que ça fait partie de la stratégie. Réaction André Guichaoua sur ces relations qui peuvent paraître un peu étonnantes, en tout cas vu d'ici, cette nouvelle coopération qui est en train de se forger entre Israël et le Rwanda.
Moi, je pense que l'intérêt est aussi politique et idéologique. Mmh. C'est-à-dire que le Rwanda se fait reconnaître comme un pays qui a connu une tragédie similaire, un génocide. Et d'une certaine façon, il peut désormais s'aligner, si l'on peut dire, sur les méthodes du régime israélien. En ce qui concerne le maintien de l'ordre, en ce qui concerne la politique judiciaire, en ce qui concerne la lutte contre l'impunité, voire éventuellement en ce qui concerne la justification de l'autoritarisme. Ça lui permet en particulier de lancer des mandats d'arrêt sur toute la planète et de réguler la pression sur les États au gré de son bon vouloir.
On partage une idéologie commune. On arrive presque au terme de cette émission, André Guichaoua, et bizarrement, on n'a pas du tout parlé des États-Unis. Pourtant, Paul Kagame, il a un lien avec les États-Unis. Il faut se souvenir qu'au début de sa carrière, les maquisards qui ont aidé Museveni à prendre le pouvoir en Ouganda étaient soutenus politiquement, économiquement, militairement par les États-Unis, que Paul Kagame est parti pendant un moment aux États-Unis pour suivre une formation militaire. C'est quoi aujourd'hui la nature des relations entre Kigali et Washington? On a une minute et il faudra vous réinviter sur ce sujet uniquement. Et comment Paul Kagame pense justement les relations aux États-Unis aujourd'hui? C'est important.
Il les pense, à mon avis, de la même façon qu'avec les autres grandes puissances, c'est-à-dire qu'il définit sa stratégie, se coule dans le lit d'une politique favorable et soutenue par des pays africains, etc., et les amène à se conformer à un rapport de force qui leur est favorable et dans lequel ils peuvent trouver leur place. En ce qui concerne les États-Unis, ils ont toujours été extrêmement présents, ainsi que par exemple que la Grande-Bretagne, dans les mines au Congo. Qu'ils pèsent, c'est sûr, mais ils n'ont pas besoin d'intervenir ni de dicter quoi que ce soit, puisque la relation est transparente. Les deux pays sont sur une même vision, une même stratégie, des démarches assez similaires, notamment en ce moment.
Les relations sont pas très 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 bonnes. Je crois qu'il y a une augmentation des taxes absolument terrible sur le textile qui coûte beaucoup au Rwanda.
Oui,
décision de l'administration Trump. Mais là, qui révèle plutôt.
Là, on est, excusez-moi, sur ce qu'on appelle les coûts de transaction, c'est-à-dire la répartition des bonus, plus prosaïquement, des droits d'entrée qu'on a sur des marchés. Et au Rwanda, je dirais, la trilogie État-Parti-Entreprise est extrêmement prégnante et ils maîtrisent les règles anglo-saxonnes aussi bien que les Américains.
Merci beaucoup en tout cas à Jérémy Révillon qui était avec nous par téléphone. Un grand merci à vous André Guichaoua de nous avoir éclairé sur cette diplomatie selon Paul Kagame. Je rappelle que vous êtes l'auteur notamment de Rwanda, de la guerre au génocide, les politiques criminelles au Rwanda 1990-1994 qui était paru à La Découverte. Merci beaucoup. 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors aujourd'hui, la politique mondiale subit des transformations extraordinaires et l'Europe peine à s'y adapter, Brice.
Oui, les Européens doivent mettre les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu à déplorer le monde d'hier. On ne peut pas continuer à pleurnicher sur la fin de l'ordre libéral international et sur notre cher multilatéralisme assassiné par Donald Trump. Cela ne les ressuscitera pas. En réalité, Trump ou un autre, les États-Unis n'auraient sans doute pas agi différemment. Ils ont seulement pris acte avant nous autres Européens du fait que la Chine avait acquis les moyens de faire basculer l'ordre mondial dans une direction nouvelle, conforme à ses propres intérêts, et ils s'y sont adaptés afin de mieux défendre leurs intérêts, nous pas. Ce n'est certainement pas la fin de la mondialisation, rêvée il y a une quinzaine d'années par des gauchistes à la traîne, mais c'est l'entrée dans une époque nouvelle, oui, une ère où la Chine est désormais en mesure de proposer son propre système mondial d'échange, alternatif à une mondialisation pilotée jusqu'ici par les puissances occidentales. Et la proposition qu'elle fait à l'Asie comme à l'Europe, « One Belt, One Road », dit encore « Nouvelle route de la soie », en est la matérialisation explicite. Et bien de notre capacité à y répondre, ou non, collectivement, voire à proposer une alternative européenne à cette initiative de relance de la mondialisation, dépendra la place de l'Europe sur l'échiquier du XXIe siècle. Mais nous sommes pris au dépourvu, car nous avions imaginé que l'entrée de la Chine à l'OMC signifiait l'alignement progressif de cette immense puissance sur nos modes de pensée et de gouvernance à nous, la conversion de ses dirigeants réputés communistes au libéralisme classique, la poursuite du mouvement de privatisation de l'économie amorcé par Deng Xiaoping. Or aujourd'hui, écrit Andrew Small dans Foreign Affairs, l'Europe a perdu l'espoir que la Chine transforme son économie ou autorise un accès plus large à ses propres marchés. Et dans le même temps, des acteurs économiques chinois, soutenus et subventionnés par leur propre État, ont progressé dans des secteurs que l'Europe considère comme critiques pour son propre avenir économique. La BDI, la Fédération allemande de l'industrie, met en garde ses adhérents contre un pays, je cite, « entré en compétition systémique avec les économies libérales et qui, dans cet esprit, regroupe ses propres capacités de manière efficace à des fins à la fois économiques et politiques ».
Mais Brice, nous avons nourri bien d'autres illusions sur l'état du monde, nous autres Européens.
Oui, comme le rappelle Jean Pisani-Ferry dans un papier paru ces jours-ci chez Project Syndicate, nous avons cru que l'interdépendance économique croissante entre les blocs commerciaux allait rendre les conflits militaires à l'ancienne obsolète. C'était la fameuse mondialisation heureuse. Souvenez-vous, au contraire, nous sommes entrés dans une ère caractérisée par l'exacerbation des rivalités géopolitiques. Concentration économique et compétition géopolitique vont de pair, écrit Pisani-Ferry. Les échanges économiques sont désormais conçus par les deux superpuissances comme des moyens au service de leur politique extérieure. Alors l'Union européenne, qui de son côté prône la concurrence libre et non faussée parce qu'elle privilégie les avantages du consommateur, fait face désormais à des géants nationaux, conçus et utilisés comme des instruments de projection de la puissance chinoise dans le monde. Ils ne se conforment guère à nos règles et à nos normes. De leur côté, les États-Unis aussi font de plus en plus désormais un usage géopolitique de leur économie. Ils utilisent ainsi ouvertement leur monnaie comme un instrument de puissance. Et au nom de la fameuse extraterritorialité du droit américain, Washington entend nous interdire de commercer avec les États avec lesquels il est en conflit, comme l'Iran. Alors à côté des vertus supposées pacificatrice du doux commerce, nous avons également misé, nous autres Européens, sur l'unification du monde par Internet. Eh bien, non seulement le réseau mondial était censé ouvert, mais il était censé concurrentiel. Or, ce qui s'est produit, au contraire, et je cite à nouveau Pisani-Ferry, c'est sa fragmentation en un archipel de sous-systèmes séparés les uns des autres, dont certains sont directement administrés par des gouvernements. Et j'ajoute que le secteur du numérique, loin d'avoir suscité la fameuse concurrence, a donné naissance en réalité à un véritable oligopole américain. Alors, ce changement rapide de la donne économique mondiale appelle du côté de l'Union européenne à des révisions rapides des politiques menées jusqu'ici. Déjà, comme les États-Unis, l'Allemagne et la France ont pris des mesures pour protéger certaines activités stratégiques de la convoitise d'entreprises chinoises concurrentes. Faut-il pour autant favoriser la naissance de champions nationaux européens, comme le souhaitent manifestement les Françaises et les Allemands, mécontents d'avoir vu la Commission européenne interdire la fusion Alstom-Siemens au nom des règles de la concurrence? Savoir. En tout cas, il faut changer les règles limitant les fusions-acquisitions.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Raphaël Bourgois et la Grande Table.